Zoé Sfez, en revanche, à la Philharmonie de Hambourg, il y a un projet pharaonique qui aura mis plus de 10 ans à voir le jour et qui est devenu cette salle, la salle de spectacle la plus chère de tous les temps. Pourtant, il y a compétition en la matière. Elle ouvre en janvier prochain.
Vous parlez de quelle compétition? De notre propre philharmonie. Elle dépasse largement tout. Alors, cette philharmonie d'Hambourg, elle s'appelle la Philharmonie de l'Elbe. C'est son nom précis. Elle a été dessinée par les architectes Starr, Herzog et de Meuron. Et elle a pour ambition d'être l'une des plus belles salles du monde. Alors, elle a été construite sur un ancien entrepôt en briques des années 60. Il y a une espèce de structure en verre avec des facettes convexes et concaves qui reflètent à la fois le ciel de Hambourg, mais aussi l'Elbe, donc la rivière qui coule à ses pieds. Il y a une plaza, on va dire une espèce de terrasse qui culmine à 37 mètres de haut, qui offre une vue panoramique sur la ville, sur son port. On y accède par l'escalator le plus long d'Europe. Le projet, qui ouvre donc en janvier, a été présenté hier à la Philharmonie de Paris. Projet frère dans l'ambition artistique, mais aussi dans le dépassement des coûts, même si cette philharmonie va beaucoup, beaucoup plus loin. D'ailleurs, à chaque fois qu'on avait des problèmes de budget, on parlait toujours d'Hambourg en disant « mais Hambourg, c'est bien pire », puisque à l'origine, c'était un projet privé qui a été repris par la ville parce qu'il a suscité beaucoup d'enthousiasme. Estimé, alors on savait très bien que c'était une estimation largement pas assez importante,
sous-estimé
à 76 millions d'euros au départ, elle en a coûté finalement 865. Ah,
c'était une estimation
basse. Un dépassement record qui a fait qu'à un moment donné, les Hambourgeois sont allés dans la rue manifester contre ce projet. Le Parlement de la ville s'était même saisi d'une requête d'annulation. Il était devenu finalement la risée de l'Europe. Et finalement, Christophe Liebenstötter, son intendant général, la présente puisqu'elle va bien ouvrir. Et il le fait sans aucune langue de bois, ce qui est assez rare ici en France.
Die enormen Kosten des Projektes und die lange Baustellenverzögerung sind natürlich eine...
Le coût et les délais de construction de cette philharmonie de l'Elbe ont été énormes. Oui, la ville a dû hypothéquer. Notre erreur a été, je crois, de lancer les travaux avant d'avoir finalisé le projet. Mais aujourd'hui, le résultat en termes d'architecture est spectaculaire, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La qualité des finitions est magnifique et je pense que cela peut relativiser les critiques. Nous sommes très contents de la grande salle conçue en vignoble, puisque le public est installé sur différentes terrasses tout autour de l'orchestre. Et l'atmosphère est très intime. On n'est jamais à plus de 30 mètres de l'orchestre. Et surtout, l'acoustique est excellente. Monsieur Toyota en est très satisfait. En revanche, on ne peut pas, comme ici à la Philharmonie de Paris, moduler la scène pour la mettre en face au public lors de concerts pop, par exemple. Et cela, je le regrette. Mais aujourd'hui, toute la ville d'Hambourg est excitée. Il y a un vrai enthousiasme. Nous affichons complet. Et les critiques qui étaient tout à fait justifiées pendant la construction se sont tues maintenant.
La ville d'Hambourg, Zoé Sfez, ne lésine pas sur les moyens pour mettre en valeur ce projet qu'il va falloir rentabiliser, à mon avis, sur un certain temps. Et elle veut aujourd'hui attirer des touristes du monde entier, on la comprend.
Mais alors finalement, figurez-vous que ce qui est assez intéressant dans la Philharmonie de Paris comme dans ce projet de Hambourg, je ne l'avais pas écrit, mais je vous le dis, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, ces dépassements de coûts, c'est une très bonne publicité, puisqu'on en parlait bien avant qu'elle ouvre de cette Philharmonie. Alors en l'occurrence, justement,
on va voir les matériaux qui ont été utilisés.
La présentation d'hier s'inscrit dans le cadre d'une tournée, on peut vraiment dire ça, de présentation qui aura lieu dans toute l'Europe, mais aussi en Chine, aux États-Unis. Il y a 17 étapes pour ce cher surintendant qui va à peu près en faire la promotion partout. Et Hambourg, qui manquait jusqu'ici d'un vrai projet architectural fort, malgré son grand dynamisme, compte sur cette philharmonie pour attirer des touristes étrangers sur un peu l'effet Guggenheim pour la ville de Bilbao. La philharmonie compte d'ailleurs un hôtel de luxe, plusieurs appartements de luxe que vous pouvez louer, qui ont participé à la construction de cette philharmonie. Et d'ailleurs, le surintendant, sans langue de bois, regrette qu'il ne participe pas plus au modèle économique. Le modèle économique est quand même assez solide puisqu'il y aura 6 millions d'euros de budget artistique public et la même chose de mécènes privés. Et cette philharmonie qui a aussi la volonté d'incarner une Allemagne résolument moderne, ouverte pour ses propres concitoyens. Programmation très ambitieuse, les meilleurs orchestres du monde dans les 6 premiers mois, dont évidemment l'orchestre Simon Bolivar de Gustavo Dudamel. Plusieurs festivals, dont l'un sur la Syrie. À ceux qui s'étonnent qu'un projet d'une telle ampleur puisse exister et puis être financé dans un pays comme l'Allemagne où clairement la musique classique est partout et très vivace. Christophe Liebenstötter répond qu'il s'agit, oui, effectivement, d'un projet politique.
C'est vrai qu'en Allemagne, nous avons déjà beaucoup de lieux dédiés à la musique classique. Mais c'est lié au fait que nous sommes un État fédéral. Chaque Länder a son théâtre, son opéra, son orchestre. Mais nous sommes confrontés au même problème que partout en Europe. Nous voulons changer le mode d'écoute de la musique et nous devons conquérir un autre public. Les populations changent. Beaucoup de gens arrivent en ce moment en Allemagne et ils n'ont pas cet héritage héritage culturel qui s'étale sur des siècles et des siècles. En ce sens, je crois que les philharmonies sont des cathédrales des temps modernes, des lieux qui créent du sens. D'ailleurs, on le voit, les gens n'achètent pas un billet, mais 10, 20. Ils veulent en être. Donc oui, c'est politique. Il y a 20 ans, on construisait ce genre de salle pour combler un besoin. Aujourd'hui, on le fait, à Hambourg comme à Paris, pour créer ce besoin. Pour créer du sens, une communauté culturelle, pour que les gens vivent quelque chose ensemble. On va de moins en moins dans les églises aujourd'hui, et je pense que les philharmonies peuvent prendre le relais.
Voilà, alors cette philharmonie de Hambourg, sa plaza ouvre dans quelques jours, donc début novembre, vous pouvez y aller, c'est gratuit, il faut prendre un ticket. Et ensuite, le week-end inaugural, dont on ne connaît pas encore le programme, qui sera une surprise, c'est le 11 et le 12 janvier. Prochain.
Merci.
Vous irez, Guillaume Hermé.
Bah, là, maintenant, on sait que ça coûte cher. On va y aller avec Mathieu Conquet.
Voilà, c'est une bonne raison pour y aller.
Les inspecteurs des travaux finis, les brèves.
On ouvre avec la chute de fréquentation qui touche sévèrement les musées britanniques, un peu pareil que les musées français. Une cinquantaine de musées soutenus par le ministère de la Culture britannique, donc les 50 principaux du pays, ont perdu 3,5 millions de visiteurs au cours de ces 12 derniers mois, soit une baisse de fréquentation de 6%. Alors, les uns, dont le ministère souligne la menace terroriste, les autres, les associations culturelle notamment, une mauvaise programmation et bien sûr une météo trop clémente qui a poussé les gens à rester dehors plutôt que d'aller dans les musées.
Jean-Marc Morandini qui est a fait sa première émission malgré une grève massive des journalistes de la chaîne iTélé.
Extrêmement tendue la situation à iTélé, comme le souhaitait Vincent Bolloré, l'animateur. Donc Jean-Marc Morandini a démarré hier soir son émission consacrée aux médias, et ce malgré la grève massive décidée par la rédaction, qui voit un message très dur de la direction. Je rappelle que les journalistes d'iTélé se sont mis en grève à une très écrasante majorité contre l'arrivée de cet animateur, faisant jouer leur clause de conscience. Il a été, je le rappelle, Jean-Marc Morandini, mis en examen pour corruption de mineurs aggravés dans le cadre d'un casting plutôt douteux pour le tournage d'une web-série érotique. Une nouvelle assemblée générale doit avoir lieu à iTélé ce matin dans quelques heures.